Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Odile, bonjour à tous.
C'est l'heure de votre hommage à l'écrivain Gilles Lapouge, virtuose du paradoxe. C'est donc le numéro 3.
Exactement, c'est le numéro 3, puisque nous avons commencé à évoquer la mémoire de cet écrivain déjà une première fois. Donc aujourd'hui, nous allons continuer à parler de cet écrivain, et je rappelle que c'est à l'occasion du centenaire de sa naissance, puisqu'il est né il y a un siècle, à Digne. J'avais déjà célébré cet anniversaire avec l'association Bibliothèque pour tous, fin 2023, mais il nous a semblé intéressant de continuer à célébrer cet hommage pour un écrivain qui est encore peu connu dans la région, et en particulier à Digne, et pourtant il était né à Digne. Il venait passer toutes ses vacances d'été à Digne et à Chantercier, et il a été enterré à Digne. Voilà, de surcroît, c'était un ami personnel, donc que j'ai beaucoup fréquenté quand il venait en vacances, mais aussi à Paris, à l'occasion d'émissions sur France Culture, une émission qu'il animait et qui s'intitulait « Un étrange pays ». Voilà, donc nous allons évoquer aujourd'hui un petit peu son œuvre, avec différents ouvrages dont nous allons lire quelques passages. Bon, il a vécu à Paris, alors il ne faut pas croire que c'est un Dignois, ce n'est pas un écrivain régionaliste. Certes, il est né à Digne, il aimait beaucoup Digne, mais bon, il a passé toute sa vie et sa carrière d'écrivain et de journaliste, parce qu'il fut aussi journaliste, à Paris et au Brésil. Il était reporter pour un journal brésilien, il a beaucoup voyagé, donc il a écrit sur des sujets très divers, d'une manière talentueuse. Il a écrit une trentaine de romans, d'essais, de récits de voyage. Il était invité également au festival des écrivains dits voyageurs à Saint-Malo chaque année. Il a été très, très fier et très, très flatté. Voilà. Avant d'évoquer quelques lectures de quelques passages de son œuvre, j'aimerais essayer de lui attribuer une définition ou plusieurs définitions pour le situer par rapport aux éditeurs. Pas pour le situer, mais pour le qualifier. Voilà, donc je vais proposer une première citation de la part d'un critique littéraire. Alors là, je cite. « C'est un révolté métaphysique qui mélange temps, espace, gens, événements, barate le tout et redistribue le jeu. » Voilà, en quelques mots, c'est très joliment dit et c'est tout à fait Gilles Lapouge. Alors pour moi, j'ai une autre définition qui m'est personnelle, c'est un virtuose du paradoxe, du rêve et des mirages, partagé entre nostalgie et émerveillement. Il est à la fois nostalgie comme l'est un ancien et émerveillé comme l'est un enfant. Et c'est tout à fait Gilles Lapouge. Alors nous allons commencer par un petit texte à propos des mirages. Parce qu'il aimait bien dire combien il était partagé entre le rêve et la réalité, entre le rêve et le mirage. Il ne savait jamais s'il était dans le rêve ou dans le mirage. Il disait « Je me demande toujours si je me promène dans du réel ou du mirage ». Ça, c'est tout à fait Gilles Lapouge. Alors, on va lire un petit texte pour évoquer justement ce besoin de mirage dans un extrait d'un livre qui s'appelle justement « Besoin de mirage ». Où Gilles Lapouge raconte que, avec son père, qui était officier de l'armée française en Algérie, un jour, le père et toute la famille décident d'aller faire un voyage dans le Sahara. Ils partent dans un véhicule où il y a toute la famille, ils sont entassés, 6 ou 7, et le petit Gilles Lapouge, qui est un petit garçon, il est le plus petit, il est assis sur un strapontin tout à fait à l'arrière, et donc il regarde vers l'arrière, et il raconte Gilles Lapouge d'une manière très, très rigolote, il raconte comment il est rentré dans le voyage, et comment il est rentré dans le Sahara à reculons. À la fois avec délices, mais avec beaucoup de terreur. Alors, je vous livre ce passage. Donc, ils sont dans ce véhicule, ils rentrent dans le Sahara. Le sable n'a pas duré, et nous avons attaqué les plaines, la steppe, les cailloux, et toujours le soleil sur nous. Les étapes étaient fastidieuses. On s'ennuyait, mais on ne voulait pas le dire pour ne pas faire de peine aux autres. Aussi, on riait tout le temps. Mais un jour, il ne resta plus de rire. Pour tuer les heures, nous nous sommes mis en tête de faire des mirages. Ce n'est pas sorcier. Au début, c'est intimidant. On tâtonne. On se dit qu'on n'y arrivera jamais. C'est un peu comme la pêche aux palourdes, mais on s'y fait. Dès qu'on a saisi le tour de main, les mirages affluent. Les progrès sont immédiats. Au commencement, si j'arrivais à faire dans ma journée 3 palmiers et une flaque d'eau, je m'estimais heureux, mais je progressais à pas de géant. J'affinais mon art. Et puis, il y avait une grande émulation dans notre automobile. Dès que l'un de nous avait pincé un mirage, il l'annonçait à la communauté, un peu comme un chasseur, retour d'une battue dans la montagne, jette sur le perron de la maison, d'un geste modeste, un perdreau, un lièvre et 2 faisans. Un désagrément de la chasse au mirage est qu'elle est rétive à tout contrôle. Je peux en remarquer un que mes voisins ne voient pas, et vice-versa. Il faut faire confiance aux autres collectionneurs. C'est une école de loyauté. Cela changeait du lycée, où les professeurs, méfiants comme des rats, comptabilisaient tout ce que nous faisions, faute d'orthographe, erreur de calcul, retard du matin, retard de l'après-midi, pâté d'encre sur la feuille de composition, redondance et répétition, solécisme et barbarisme, nombre de secondes pour courir 80 mètres. Le mirage, lui, est hostile à toute vérification. J'eusse dit que j'avais récolté un champ de blé et un troupeau de loutres, on n'y vu que du feu. C'est pourquoi nous ne trichions jamais. C'eût été trop simple, et pourquoi mentir, s'il n'y a point de gardien. Pareille pratique nous eût fait horreur, car le mensonge est un péché. Au surplus, elle eût mis un terme à notre divertissement qui ne pouvait fonctionner sans transparence. Nous étions voués à la franchise. Et nous faisions large mesure en matière de scrupules. « Je crois bien que j'ai vu un palmier, » disait l'un ou disait l'autre. « Mais je n'en suis pas sûr. C'était peut-être une illusion. Ou bien c'était une touffe d'alpha et non une palmeraie. » Ainsi, avons-nous créé, par mégarde et par honnêteté ensemble, une espèce inédite d'objet. Non plus le mirage, mais l'illusion de mirage, le mirage de mirage. À ce point, une question effrayante et même philosophique se posait. Et si l'illusion elle-même était une illusion? Est-ce que cela voulait dire que le mirage, défini d'abord comme une illusion, exaucé ensuite au rang d'illusion, d'une illusion, se voyait retirer le peu de réalité qu'on croyait qu'il contenait? Je m'égarais dans ces complications. Donc voilà pour le mirage du mirage. Alors après ce petit texte extrait de « Besoin de mirage », on va évoquer, je disais que Gilles Lapouge était un virtuose du paradoxe. Alors justement, on va évoquer ce goût pour le paradoxe qu'il manipule avec beaucoup d'habileté, de virtuosité. Alors juste un court extrait d'un ouvrage qui est un récit d'une mission que les Portugais ont organisée pour délimiter les frontières du Brésil, parce que le Brésil, c'est immense. Et puis, à l'époque où ils ont découvert le Brésil, les Portugais, ils ne savaient pas trop quelles étaient les bornes, les limites et les frontières de cet immense pays qui se perdait dans les marécages de l'Amazonie. C'était absolument impossible. Et le roi du Portugal avait mandaté une mission pour jeter des stèles aux bornes du Brésil pour délimiter les frontières entre ce qui appartenait au Portugal et ce qui appartenait à l'Espagne, puisque ces deux pays s'étaient partagés l'Afrique du Sud. Alors, un petit extrait pour voir comment ils s'étaient organisés. Alors, ils étaient partis. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'ils étaient partis avec une carte qui avait été dessinée par le géographe de Louis XIV, lequel était aveugle. Donc ils avaient une carte, peut-être pas trop fiable, et vous allez voir de quels outils ils s'étaient dotés, en particulier de quelle boussole. Quand on est une brave boussole portugaise, il faut avoir la poisse pour s'aventurer dans cette mélasse. Il n'y a pas de nord et pas de sud dans le coin. Et vous savez pourquoi? C'est qu'on est juste entre le nord et le sud, juste au milieu. Il y a les étoiles des deux côtés, les étoiles du septentrion, les étoiles du midi, elles s'embrouillent les unes dans les autres. Et le nord est au sud, et le sud est au nord, d'accord ? Et vous voudriez qu'il y ait encore un sud, un nord ? Pourquoi pas un ponant, et même un nadir, capitaine ? Elle sait plus ce qu'elle doit faire, la boussole. Donc, pas de boussole. Alors, allez savoir comment faire pour s'orienter, parce que ils ont embarqué sur un bateau des stèles, avec d'un côté royaume d'Espagne et de l'autre côté royaume du Portugal. Et il faut les laisser tomber aux confins et ils naviguent sur le fleuve Amazon. Mais le fleuve Amazon, c'est la saison des pluies, on ne sait plus où est le fleuve Amazon et où est le marécage, parce que c'est à perte de vue des marécages, de l'eau, des zones inondées, c'est immense, on ne sait plus où on est. Et ils sont perdus, ils sont complètement perdus, ils se disent mais comment faire, en plus pas de boussole, du moins une boussole qui ne fonctionne pas. Donc c'est l'angoisse, parce que s'ils reviennent au Portugal sans avoir borné le pays, sans avoir déposé les stèles, c'est la peine de mort. C'est ce qui avait été annoncé. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, tant pis, ils poussent la stèle au hasard. Malheureusement, elle tombe à l'envers. Et le Portugal et le Brésil est à la place de l'Amazonie et l'Amazonie est à la place du Brésil. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'il raconte dans cet ouvrage qui s'appelle « La mission des frontières ». Alors, puisqu'on parle du Brésil, un autre petit texte qui est extrait justement du Dictionnaire amoureux du Brésil, de Gilles Lapouge, bien sûr. Un petit texte sur un rendez-vous que Gilles Lapouge avait donné à une jeune fille. Alors, le lieu de rendez-vous, c'était la pluie. Alors, le petit chapitre s'appelle « La pluie de Belém ». Je cherche une pluie. Je l'ai perdue, voici quelques années, 20 peut-être. Je faisais un reportage dans la forêt d'Amazonie. Pour quelques jours, je m'étais posté dans la ville de Belém, qui veut dire Bethléem. C'est une énorme cité. Elle fut grandiose à l'époque du caoutchouc, au début du XXe siècle. Dans la suite, elle a sombré, et puis elle a été renflouée. Le soir, des jeunes garçons lancent des bâtons dans le feuillage des manguiers pour recevoir sur la tête des cargaisons de fruits mous et sucrés, et ça les fait rire. De la grandeur et de la décadence de Belém, tout a été conservé. On lit l'histoire de la ville sur les façades des maisons. Les années, la chaleur et l'humidité défont doucement les anciens palais. Il y a de belles avenues, de beaux gratte-ciels, parfois une ferronnerie des temps anciens pendant le vide. Le ciel, à travers les arabesques de bronze et d'acier, semble en prison. Cette année-là, je luttais contre la nuit qui constitue, avec la peur, le compagnon des longs reportages. Qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer dans un reportage ? Si un journal me demandait aujourd'hui un reportage, j'en proposerais un sur l'ennui. De notre envoyé spécial dans l'ennui. L'avantage, c'est que je pourrais aller à Sao Paulo ou à Singapour, à Irkoutsk ou à Vancouver, dans la forêt ou dans la plaine. De toute façon, je ne pourrais pas rater mon sujet. Si on sait s'y prendre, on peut trouver des tonnes d'ennuis, même au Crisihorse Saloon, même à Saint-Pierre de Rome, même à Belém. J'allais dans la forêt. Quand j'avais fini de marcher dans la forêt, je revenais dans la ville, je flânais. Après quelques fins d'après-midi à l'abandon, j'ai su intéresser une jeune fille à mon sort, surtout quand elle a appris que je venais de Paris. Elle aurait aimé que je lui donne des nouvelles du couturier Cazel Bajac. Ensuite, elle m'a demandé ce que je faisais dans toutes ces rues. Je lui ai dit que je flânais. Elle a trouvé surprenant d'habiter Paris et de flâner à Belém. Je lui ai répondu, justement, ce sont toujours les voyageurs qui flânent. Elle a été d'accord et elle était radieuse. Je l'ai fréquentée pendant quelques instants. Elle était souriante, espiègle même. Je me suis enhardi. Je lui ai avoué que je n'étais pas seulement un flâneur, j'étais également un journaliste et je faisais un article sur Belém. Aussi, je serais content de la revoir, puisqu'elle était de Belém. Ça tombait bien. Elle était en plein dans mon sujet. C'est vrai, a-t-elle dit. Elle m'a donné un rendez-vous. Elle l'a fixé au lendemain, après la pluie. C'est ainsi, dans ces écarts, que les jeunes gens et les jeunes filles se débrouillent pour s'aimer. Ils ne se trompent jamais, car les averses équatoriales sont très disciplinées et obéissantes à des protocoles aussi rigoureux que les marées de la Bretagne. Encore faut-il connaître ces protocoles qui sont plus compliqués qu'un concours dans l'école polytechnique. Pour moi, comme j'étais mal informé sur les nuages de l'Amazonie, j'ai envisagé de demander au concierge de mon hôtel où nous en étions avec les pluies, mais j'ai eu peur de passer pour ridicule. Le lendemain, j'ai cherché ma pluie. Je me suis rendu à la première averse qui passait par là. C'était le début de l'après-midi. Par précaution et dans la crainte de perdre la jeune fille, je suis entré tout de suite dans cette pluie. Je me suis abrité sous la ramure d'un noyer du para. Au bout d'un moment, la pluie a cessé et la jeune fille n'était pas là. Dans un sens, je m'en félicitais, car je n'étais guère présentable. J'étais mouillé comme un palétuvier. J'étais à tordre et la jeune fille aurait probablement éclaté de rire en voyant mon état. Je me suis dépêché de me rappeler une phrase de je ne sais plus quel auteur, selon laquelle le meilleur moyen de mettre une jeune fille dans son lit est de la faire rire. Mais le rire que provoque un type venu de Paris pour dégouliner de pluie amazonienne n'est probablement pas le bon rire. Voilà pour ce rendez-vous dans la pluie à propos du Brésil, puisque Gilles Lapouge a beaucoup écrit sur le Brésil où il était journaliste. Bon, mais Gilles Lapouge n'a pas écrit que sur des sujets un peu légers comme celui-là, mais il a écrit aussi sur des préoccupations métaphysiques, parce que c'était aussi un peu un inquiet métaphysique. Et pour illustrer ce que je viens de dire, je vais vous proposer un passage d'un de ses ouvrages que j'aime beaucoup et qui s'appelle « Un étrange pays ». C'était d'ailleurs le titre de l'émission que Gilles Lapouge animait de temps en temps avec moi sur France Culture. Ça s'appelait « Un étrange pays ». Alors voici un petit extrait de son essai « Un étrange pays ». Le chapitre s'intitule « Espace infini ». Bonne nouvelle, le télescope Hubble va mieux. Il est même guéri. Hubble est cette merveilleuse machine volante qui tourne sur nos têtes depuis 1990 et qui photographie le cosmos. Comme il était empoussiéré après 10 ans de service, des astronomes l'ont visité. Ils l'ont nettoyé et le voilà comme un sous-neuf. Jamais son regard ne fut plus clair. Il y voit 10 fois mieux qu'avant. Et pourtant, le premier Hubble avait déjà l'œil pointu. En 10 ans, il nous a ouvert le ciel comme on ouvre le ventre d'un lapin. Il nous a montré les entrailles du cosmos, et ces entrailles sont à n'y pas croire. Les clichés que nous a transmis la lorgnette fabuleuse sont beaux comme des foudres, beaux comme des au-delà ou comme des méduses, comme des dedans de cervelle. Dans le coin d'une de ces photos, on découvre une tache écarlate. C'est un incendie large d'un 2 000 000 d'années-lumière. Sur d'autres clichés passent des peuplades de soleil en perdition, des abîmes, des enfers froids et des enfers de braise, des paradis, des déserts, des velours bleus. Hubble a tout bouleversé. Le temps, l'espace, la géographie, la philosophie, la théologie et l'histoire des grandes navigations. Au détour de ces 10 années, Christophe Colomb s'est ratatiné. Dieu sait pourtant si son expédition en Amérique avait fait du foin à l'époque. Mais aujourd'hui, à l'échelle de Hubble, son périple vers Saint-Domingue est devenu une promenade de Lilliput. Eh bien, par rapport au Hubble nouveau, tout cela n'était qu'une amusette. Voici venu le temps des ciels illimités. Nous savions depuis longtemps que l'azur est infini. Mais il va devenir plus infini encore, si la chose peut se dire. Hubble va nous offrir des pièces cachées, des caves, des greniers et des vestibules inexistants. Peut-être nous donnera-t-il à voir un trou noir, ou même le plus récent avatar des trous noirs, un de ces gravastars dont un morceau gros comme une boîte d'allumettes pèse, à quelque chose près, 100 millions de tonnes. avec un peu de chance, Hubble poussera une des portes par lesquelles notre univers communique avec un univers parallèle et nous pourrons enfin répondre à la question essentielle. Sommes-nous dans l'univers où nous sommes ou bien dans un autre ? Chacun sait que le cosmos n'a pas de frontières, mais Hubble, le Hubble nouveau, est capable de tout et même de photographier la frontière de cet univers sans frontières, ce qui n'est pas très logique, mais la logique, le cosmos n'est pas au courant. La règle du tiers exclu, les syllogismes d'Aristote, la logique de Port-Royal, tout ça marche assez bien dans notre monde sublunaire, mais le cosmos n'en reconnaît pas les règlements. Dans le même moment, et à l'échelle des paysages monstrueux que nous révèle le télescope Hubble, la Terre se recroqueville au point de n'être plus qu'une rien du tout, une distraction ou une illusion. Pascal, qui s'affolait quand il contemplait les ciels si simples, si naïfs de son XVIIe siècle, et qui disait tout le temps « le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie ». Pascal, si nous lui présentions les clichés de Hubble, nous ferait tout de suite une pâmoison. Mais, dans le même temps, comme il adorait avoir peur, il boirait du petit lait. Nous sommes tous des Blaise Pascal, meurtris d'angoisse devant les complications du cosmos et amoureux de cette angoisse. La curiosité des hommes est comme l'univers, elle n'a pas de fond. Depuis que les hommes sont sur la Terre, qu'ont-ils fait, si ce n'est profaner l'inconnu, abolir les nuits, violer le tabernacle et soulever les voiles? Ça ne nous a pas tellement bien réussi, d'ailleurs, car le bon Dieu est sourcilleux. Il n'aime pas qu'on farfouille dans les coulisses de son ouvrage. Il a commencé par nous claquer au nez les portes du paradis terrestre, mais cet inconvénient ne nous a guère intimidés. Quelques années plus tard, Prométhée volait le feu des dieux. Plus près de nous, Faust a voulu déchiffrer à son tour le secret et il est tombé dans les mains du diable. Aujourd'hui, le Hubble nouveau est le dernier avatar d'Adam, de Prométhée et de Faust réunis. Plus radical, plus audacieux ou plus érudit que ses trois collègues, il plonge directement les yeux dans l'indicible. Il fourgonne dans la mécanique du ciel, dans les rouages de la création. Il voit l'invisible, il se jure de connaître l'inconnaissable. Nul doute que le maître des choses, s'il vient à l'apprendre, se mettra encore en colère. On verra bien. En attendant, nous continuons à jouir des joliesses de la Terre. Avec un peu d'adresse, nous pouvons même utiliser les enseignements de Hubble pour augmenter nos bonheurs. Dieu, que les aurores sont calmes quand on sait que l'envers du ciel est un bûcher. C'est cela aussi le génie de Hubble. Il nous dit que la terreur et la beauté s'entrelacent et qu'elles conspirent ensemble. Les catastrophes du cosmos, ces collisions d'étoiles et de néant, ces trous sans fin et ces espaces sans frontières sont faits pour nous terrifier et nous ravissent en extase. Voilà pour le goût du paradoxe, mais aussi quelques réflexions métaphysiques de ce grand écrivain qui était aussi un petit peu philosophe. Et d'ailleurs, il disait lui-même que sa famille étant originaire de Chantercier, où il venait passer chaque année une partie de ses vacances, je l'ai déjà dit, que sa famille avait un lointain lien de parenté avec le grand philosophe Pierre Gassendi. Donc voilà donc Gilles Lapouche, le descendant de Pierre Gassendi, un illustre dignois qui fut connu au XVIIe siècle dans toute l'Europe. Voilà pour Gilles Lapouge, c'était la troisième émission sur ce personnage, sur cet écrivain, et nous terminerons avec une prochaine émission, ce sera la quatrième et la dernière, je pense, et ce sera donc le...
Le 7 février.
Oui, le 7 février.
Il me semble, voilà. Merci beaucoup Jean-Louis Caribou, et très bonne journée et meilleurs voeux à vous. On écoute donc le générique de cette émission et à très bientôt sur notre antenne.